every day, anywhere, anytime. The Digital Guestbook Channel. Ebenezer International, your station.
Nous vous proposons d'écouter très efficace.
Bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je me réjouis de pouvoir vous conter des nôtres à l'heure de cette nouvelle édition de Très Efficace. Une rubrique socio-culturelle consacrée aux professionnels, aux jeunes diplômés, aux artistes, aux penseurs, aux philosophes, ainsi que toutes les autres personnes qui ont une expérience quelconque à nous faire partager. Je suis votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous parle depuis la France métropolitaine. Et j'ai l'assurance que nous passerons ensemble un excellent moment puisque dans quelques instants nous accueillerons notre invité spécial, Monsieur Jean-Pierre Roy, quelqu'un dont on a beaucoup parlé à cause de sa grande initiative pour soutenir le peuple haïtien, tant qu'en France que dans d'autres pays étrangers. Sans oublier sa terre natale, Haïti. J'ai choisi également pour votre plaisir de très belles sélections musicales qui ne manqueront pas de vous plaire. D'ores et déjà, je vous souhaite une agréable écoute.
Dear listeners and friends of the Digital Gospel Channel, I greet you and welcome you on this brand new edition of Très Efficace. Très Efficace is a very special add-on of our programming conceived to welcome the professionals who want to share with us their experience. Today, it's a great joy for us to welcome a new friend of our radio station. His name is Mr. Jean-Pierre Roy. He was born in Haiti, but he's living in France since a very long time. I'm persuaded that his testimony will be a great blessing for you. Don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.frankradio.podomatic.com. www.frankradio.podomatic.com. Stay in tune and pitch.
Vous écoutez Très Efficace. La première sélection musicale avant d'accueillir notre invité, Monsieur Jean-Pierre Roy. Tova Oba, un artiste haïtien. Kem Gozé, je suis tranquille, calme. Une chanson dédiée à vous tous et à vous toutes, fidèles auditeurs et auditrices. Bonne écoute.
Yon samba qui m'a contré, studio touré. Gardez manger pour dimbi Tova. Nago trase Congo. Nan moment se salwe. Des années lumière passé. M'son équation kap développé. Se sak fe ke m'bose. M'kon ki bon poale. An lè m'ap gade. A te ya m'ap leve. Jou pam nan. Te ya m'ap leve, jou pam nan rive. Oh lo lo. Oui, samba, depi l'alpha nou existe. Jou plombe galon. Comme dans l'humanité, tes ventes. l'autre fait qu'il en soit partition à jouer sous ton orchestre la reposer. Te a ma pleve jou pa nan rive ke pose un kon ki bon pou ale an lè ma gade a te a ma pleve jou pa nan rive o lo lo l'autre galaxie pour la visite.
Très efficace.
Songe et fais ça ou t'es vivre. Sous l'univers, on escalier et les latères. Descend mes pignons et la terre. Et m'poser, qu'on qui bon poilé, en l'air m'a gagné. La terre m'a plevé, joue pas mal. Qui bon pour aller en l'air m'a gardé à terre à ma plevé jou pa nan posé un con qui bon pour aller en l'air m'a gardé à terre à ma plevé jou pa nan
l'artiste haïtien Bitova Oba dans Kem Posé. Et c'est maintenant le moment d'accueillir notre invité, M. Jean-Pierre Roy, qui a représenté Haïti récemment dans le championnat du monde de ski alpin à Garnisch, en Allemagne. Vous écoutez, très efficace.
Monsieur Jean-Pierre Roy, je vous dis bonjour et merci de nous avoir consacré ce moment précieux de votre agenda, très chargé sans doute, pour permettre à nos auditeurs de faire votre connaissance et surtout de s'informer sur les différentes initiatives que vous prenez pour venir en aide à votre pays natal, notre pays natal, Haïti. Soyez le bienvenu sur nos ondes.
Bonjour et bonjour à toutes et à toutes. Je suis très honoré d'être avec vous et de vous, peut-être vous faire partager tout le bonheur que j'ai eu à représenter donc Haïti au championnat du monde.
Monsieur Roy, merci de bien vouloir vous présenter tout d'abord à ceux de nos amis qui sont à l'écoute sur tous les continents et plus particulièrement en France métropolitaine et en Haïti qui n'ont pas encore entendu votre histoire. Alors, votre origine, parcours, état civil, permettez-nous de connaître un petit peu Monsieur Jean-Pierre Roy.
Voilà, donc je suis donc Jean-Pierre Roy, je suis né à Port-au-Prince en 1963. Je suis issu d'une famille de 7 enfants, dont 5, je suis le dernier, je suis le numéro 5 sur 7. Mmh. Et j'ai mon petit frère et ma petite sœur qui, eux, sont nés en France. Donc, je suis arrivé en France en 1965. Donc, nous sommes partis à l'époque avec toute ma famille, mon père, ma mère et oncle et tante, hein, pour émigrer en France. Mmh. Et aujourd'hui, donc, j'ai 47 ans. Donc, je suis père de 2 enfants, une grande fille de 22 ans et un fils de 8 ans. Et aussi, je suis grand-père, puisque ma fille a un petit garçon de 2 ans, Timéo.
Je ne l'aurais jamais cru. Quand je vous regarde, j'ai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui est dans les trentaines à peu près.
Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on me dit. Alors, c'est en fait, nous, hein, les Haïtiens, je crois qu'on a une particularité, c'est qu'on nous dit toujours qu'on ne fait pas notre âge. Et puis, bah, d'un coup, on le fait. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, je suis content.
Alors, vous faites quoi exactement dans la vie? Parlez-nous de vos activités professionnelles.
Alors, voilà, moi, je suis informaticien. J'ai fait des études d'ingénieur en informatique en France. J'ai un master en informatique décisionnelle et puis j'ai monté il y a à peu près 5 ans, un petit peu moins de 5 ans, une entreprise de services et de conseils en informatique sur les infrastructures, réseaux, télécom, bases de données. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser cette branche? Était-ce quelqu'un de votre famille ou vous avez décidé personnellement de vous orienter dans cette branche?
Bah, en fait, jeune, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mm-hmm. J'ai fait un peu d'études basiques, universitaires. Et puis ensuite, bah, voilà, je me suis mis dans l'informatique et j'ai été employé. J'ai eu des postes, j'ai grimpé, j'ai eu des postes à responsabilité. Et puis, à un moment donné de ma vie, j'ai eu l'opportunité de monter cette entreprise parce qu'en fait, mon grand intérêt, c'est de pouvoir me consacrer un petit peu plus à mon fils, à ma famille. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis à 80%, c'est-à-dire que je ne travaille pas le mercredi. Mmh. Le mercredi étant consacré aux enfants, donc c'est musique, piano, catéchisme, voilà quoi.
Donc, vous avez votre propre société. Et depuis combien d'années vous l'avez lancé?
Voilà, je l'ai lancé il y a environ 5 ans. On est aujourd'hui 12, une vingtaine de personnes. Mmh. Il y a 12 employés et 10 personnes qui sont sous contrat, qui travaillent pour moi.
Quel genre de service vous proposez à vos clients?
En fait, je propose des chefs de projet, des ingénieurs, des experts techniques. Pour des grosses entreprises, la plupart du CAC 40, qui ont des projets amenés, ils ont des compétences et ils ont besoin de compétences exceptionnelles pour pouvoir mener à bien leurs projets, mmh. aussi bien en développement, en infrastructure, ce qu'on appelle infrastructure technique. Et donc, ce sont des projets qui durent en moyenne entre 6 mois et 3 ans. Et donc moi je propose à ce moment-là des ingénieurs que moi j'embauche et je les propose directement à ces sociétés. Et le principe est qu'ils les achètent entre guillemets sous forme de facture mensuelle sur le nombre de jours qu'ils ont effectué.
Et quel genre de feedback vous avez au sujet des services que vous proposez à vos clients? Positif, moyen?
Aujourd'hui je crois qu'il y a eu une petite crise, hein, donc il y a 2 ans là. C'est vrai que cette crise financière a impacté pas mal d'entreprises, hein, parce que les entreprises, elles ont un petit peu freiné leur investissement. Faut savoir que l'informatique, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est le socle de base qui permet au business de se réaliser derrière.
Tout à fait.
Voilà, donc nous travaillons en fait sur des projets pour que le business puisse faire de plus en plus de business, comme d'habitude, ou sur des projets qui sont liés aux lois, par exemple. Pour vous donner un exemple, il y a eu la possibilité du taux zéro pour acheter un prêt à taux zéro pour pouvoir acquérir des résidences principales. Mmh. Donc ça, c'était une loi du gouvernement. Donc derrière, il faut faire les calculs. Donc il faut faire des programmes pour qu'on puisse faire le calcul, mettre en place le prêt à taux zéro. Voilà, donc il y a plein de lois comme ça, financières, bancaires, il y en a pas mal, des lois dans l'industrie qui permettent en fait aux programmeurs d'avoir des projets, d'avancer, de toujours se remettre en question et de nous faire vivre, nous, les sociétés de services.
Monsieur Jean-Pierre Roy, notre invité à cette nouvelle édition de Très Efficace. Vous êtes chef d'entreprise, ingénieur en informatique. Vous gérez une société d'une douzaine de personnes. Vous travaillez pour de très grandes sociétés cotées dans la bourse française, tout ça. Dans votre tête, étant donné que vous êtes en France depuis environ 45 ans, c'est ça?
Tout à fait.
Quand vous marchez, quand vous travaillez, est-ce que vous pensez comme un Français, comme un Haïtien ou...
Ah, ça, c'est une très très bonne question. Parce qu'en fait, hein, je pense, j'ai fait mes études en France en arrivant à 2 ans, je suis allé plusieurs fois en Haïti, et je pense vraiment que je pense comme un Français. Mmh. Je pense que je suis complètement intégré, plus qu'intégré, puisqu'en fait, ma vie, depuis l'âge de 2 ans, est française. Donc, j'ai cette... J'ai cette notion française, je vois même l'accent Titi parisien. Mmh. Je pense comme les Français, j'ai vécu avec la France. Cependant, il y a toujours cette racine haïtienne qui est là. Ce qui est bizarre, par exemple, c'est que effectivement, je n'ai pas beaucoup côtoyé jeunes des Haïtiens. Mmh. Mais à chaque fois que j'entends la musique haïtienne, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Je ne sais pas très bien danser, ni le rock, ni tout ça, mais par contre, j'arrive très bien à danser le compas. Le rythme, je l'ai eu assez naturellement. J'ai fait de la musique, du violoncelle pendant 12 ans. Aujourd'hui, je joue un petit peu de basse avec mes frères. Et donc, voilà, j'ai quelque chose d'haïtien qui est en moi. C'est vraiment quelque chose que je ressens. Dans le métro, je vois des Haïtiens, tout de suite je les reconnais, je sais que c'est des Haïtiens, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a toute cette... Je vis, je pense comme des Français, mais j'ai cette racine haïtienne qui est en moi. Régulièrement, je la ressens. Je la ressens sur plein de choses, sur les échanges, sur même ma façon de voir la politique en France, les échanges, voilà, j'ai cette notion haïtienne.
Vous êtes issu de la bourgeoisie haïtienne, si vous me permettez cette expression.
Oui, tout à fait. Mon père a fait des études. Il était donc en Haïti. Il est ingénieur civil. Ensuite, il a fait des études en France. Il a eu une bourse de l'État haïtien pour venir faire une partie de ses études en France. Il a refait donc l'école spéciale d'architecture. Il est architecte et puis il a travaillé pas mal pour... pour des constructions en Haïti qui sont connues. Alors je crois savoir qu'il a construit un hôpital, enfin des choses comme ça, je sais plus. Et donc c'est vrai que ma maman aussi, d'origine, donc qui est haïtienne, on faisait partie peut-être de la bourgeoisie haïtienne, puisqu'on avait une maison sur Pétionville, et puis... aussi une petite maison dans les hauteurs, sur Fermat, Kerskoff.
Très belle région que je propose aux prochains visiteurs, aux prochains touristes vers Haïti de visiter. Parce que beaucoup, très souvent, les gens vont en Haïti, ils restent à Port-au-Prince, et puis voilà, ils ne découvrent pas la beauté de notre paysage.
Ah oui, c'est un très 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 beau pays. Vous avez des vallées, des montagnes... On se croirait, c'est un mélange de Corse avec la montagne, les Alpes peut-être, les vallées, c'est magnifique.
Quand on reste dans les hauteurs de Fort Jacques, sur le Fort Jacques ou Alexandre, on voit Port-au-Prince en bas, Paul d'Oison, on observe la baie de Port-au-Prince, ça fait rêver. Hein.
Ça fait rêver, c'est vrai, je pense que le monde entier envie Haïti, hein. Je pense que... cette île est vraiment convoitée, je sais pas pourquoi. Je pense que là-bas, on pourrait faire pousser n'importe quoi. Il paraît que le sol en Haïti, on pourrait y faire pousser ce qu'on veut.
Un sol très riche.
Très très riche, oui.
Vous suivez l'émission très efficace sur la radio chrétienne Ebenezer International et nous avons avec nous comme invité M. Jean-Pierre Roy. Monsieur Roy, c'est suite à votre grande initiative sportive en faveur d'Haïti que je me suis dit qu'il serait bon d'approfondir cette connaissance de votre parcours. Alors, d'où vous venait cette idée de participer au championnat du monde de ski alpin à Garnich en Allemagne pour représenter votre cher Haïti?
Eh bien, comme petit émigré arrivé en France, je suis allé donc à l'école en France et la première fois je suis allé donc en classe de neige et j'ai découvert le ski, je devais avoir une petite dizaine d'années et j'y suis allé la première fois. J'ai trouvé ça très sympa, j'ai dit oh ça glisse, c'est beau la neige, voilà, et ça m'a plu. Donc j'ai gardé le ski comme sport d'hiver, j'y suis retourné régulièrement quand j'ai pu, une semaine par an, quand les moyens me permettaient pour pouvoir aller au ski. Et puis l'idée m'était venue comme ça avec un copain, Thierry Montillet, qui est devenu mon coach, de se dire, quand on avait vu une fois les Jeux Olympiques, et puis on avait à la télé, et puis une fois j'avais vu aussi les championnats du monde à Val d'Isère, les filles, qui descendaient, les dernières filles avaient un niveau de ski, on va dire, bien loin des meilleurs. Et ils étaient en difficulté. Et en regardant avec mon coach, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu crois que je pourrais descendre comme ça en rigolant? C'était un joke, comme on dit. Et puis il m'a dit, oh, bah oui, t'as le niveau pour descendre, mais bon, tu vas prendre, comme on dit, une valise de seconde, mais tu pourras y arriver. Et voilà, cette idée a fait son chemin. Et puis un de ces jours, on en a reparlé, il m'a dit, mais pourquoi tu le ferais pas pour Haïti, puisque tu es haïtien, t'es toujours haïtien, bah oui, on passe pour haïtien, carte de séjour, enfin tout le tralala, quoi. Et ben j'ai commencé à me dire, oui, pourquoi pas. Et puis de cette petite idée, on a commencé à se renseigner, et là on a vu que c'était une montagne, quoi. Il fallait des documents, il fallait déposer un dossier, il fallait une fédération haïtienne de ski, il fallait un tas de choses. Et donc finalement, on s'est renseigné, on s'est fait une réunion et on a vu qu'il y avait une vingtaine d'étapes pour pouvoir y arriver, sachant qu'il fallait déposer un dossier pour le 6 novembre 2010, date à laquelle la Fédération internationale de ski se réunissait pour décider si elle acceptait Haïti en tant que membre de la Fédération internationale de ski. Parce qu'en fait, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui gère le ski international, les courses, les coupes du monde, c'est la Fédération internationale de ski, ce qu'on appelle la FIS. La FIS a 10 membres permanents, la France, les États-Unis, la Suisse, l'Autriche, les grandes nations du ski. Et puis, vous avez d'autres pays qui sont donc membres. Et pour être membre, il faut déposer un dossier, et ils votent, et ils décident. Et donc, la réunion était pour le 6 novembre, sachant que la prochaine réunion devait avoir lieu au mois de mars 2011. Donc, comme les championnats du monde étaient en février, soit prêt pour le 6 novembre 2011.
Vous écoutez Très Efficace, le temps d'une pause musicale avec l'artiste haïtien Bello, La Coup Tranquille. Bonne écoute.
Changement.
très efficace.
Que vous n'êtes pas seulement quelqu'un d'origine haïtienne, vous êtes encore un haïtien à 100%.
Donc. Ah oui, haïtien à 100%. Ah oui, oui, oui. Haïtien à 100%.
Donc, pour ceux qui ne comprennent pas bien ce que nous voudrions dire, c'est que vous n'avez pas la nationalité française, vous êtes haïtien.
Alors, moi, je suis... Alors, justement, je suis haïtien depuis... j'ai toujours été haïtien, carte de séjour, passeport... Et dernièrement, donc j'ai eu un enfant français, j'étais pas marié, donc ma fille est française et moi elle est toujours haïtien. Je me suis marié, divorcé, toujours haïtien. Et puis bah, pour des raisons après peut-être un petit peu plus administratives, on m'a dit bah, pourquoi tu ne demanderais pas la nationalité française pour éviter d'avoir des papiers. Parce que c'est vrai que depuis Schengen c'est plus facile, mais avant il me fallait un visa pour aller en Suisse, en Italie, en Espagne. Donc, ce que j'avais toujours en Angleterre. Et comme mon travail m'amène souvent à l'étranger, eh bien, par acquisition, j'ai déposé un dossier, puis bon, ils l'ont accepté. Donc, récemment, je suis devenu français.
Récemment.
Donc, ça, c'est récemment.
D'accord. Ouais.
Mais c'est vraiment une question administrative. Bon, on va dire que moi, je me ressens comme un Français, puisque j'ai été élevé... voilà, mes enfants, mon petit-fils, tout le monde est français. J'ai vibré pour le drapeau français, puisque voilà, Coupe du Monde, 98, voilà. Et puis, c'est vrai que, bon, c'est tout récent que j'ai acquis la nationalité française par le mariage.
Mais pour quelqu'un qui a vécu en France pendant 45 ans, c'est vraiment un cœur français. Vous n'avez pas eu la possibilité d'évoluer dans une communauté haïtienne pour vibrer au rythme selon la fréquence du cœur haïtien. Mais ce qui vous tient encore attaché à ce pays, est-ce les histoires, les souvenirs que vous font vivre souvent vos proches
Oui, c'est ça, exactement. En fait, je suis complètement français quand je suis avec mes amis ou les gens. Et puis, cette racine haïtienne, je l'ai connue par mon frère, par ma famille, par les gens avec qui je discute. Ma maman, encore, qui est toujours vivante, qui me raconte toujours un tas d'histoires sur Haïti, sur comment c'était, tout ça. J'ai pu m'en rendre compte en allant sur place. Et c'est vrai que quand je suis sur place, j'ai un sentiment de me dire « mais là, c'est là chez toi enfin, ». Quelque chose qui me dit, il y a quelque chose qui vibre dans mon cœur quand je suis là-bas. Les odeurs, les choses, j'ai l'impression d'y avoir toujours vécu, alors que c'est vrai que j'ai fait toute ma vie en France, que je connais le moindre détail de comment fonctionne, que ce soit l'administration française, voilà. Et c'est vrai qu'Haïti, c'est quelque chose, petit à petit, ça a toujours été présent. Mmh. Et petit à petit, j'ai pris des consciences, en fait. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pris une conscience plus importante, là, dernièrement, quand j'y suis allé, par rapport à mon projet de représenter Haïti. Mmh. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans mon cœur en me disant, même si tu viens en France, t'es haïtien, j'ai toujours donné pour les associations, tout ça. Mmh. Mais là, donner de l'argent, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement, quoi. Je veux dire, même si on ne gagne pas énormément, on peut donner un petit peu. Mmh. Mais donner, je pense que c'est important. Il faut que les gens donnent. Mais je pense que c'est facile quand même. Mmh. Il suffit de sortir un peu d'argent et de donner. Donner de son temps et de son cœur, là, c'est différent.
Petite parenthèse, il semble que, alors quand je vous regarde, je vois quelqu'un de très costaud, sportif, mais selon la petite histoire, il semble que vous n'étiez pas aussi costaud à votre naissance. Me suis-je trompé, monsieur Roy ?
Non, tout à fait. En fait, moi je suis un prématuré, je devais peser 1,8 kg. Mm. Voilà, quelque chose comme ça. Et le médecin, à ma naissance, à l'hôpital Canapé Vert, mm-hmm. Elle a prévenu ma mère en disant, écoutez, ce petit garçon, il a des chances qu'il ne survive pas, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et donc là, ma mère, vous savez, les enfants, c'est des enfants. Hein, on avait déjà perdu un, parce que dans la famille, on a perdu aussi un enfant de dysenterie, une sœur. Qu'on a eu, et très jeune, un bébé quelques mois. Mmh. Et donc, elle s'est beaucoup inquiétée en se disant, si le médecin dit ça, il a de bonnes raisons. Et effectivement, j'avais un problème de fixation de calcium, tout ça, je me développais pas bien, j'étais un prématuré. Et en plus de ça, il y a eu un cyclone, alors je me rappelle plus du nom, je devrais m'en
Flora
rappeler.
Ines.
Flora. voilà.
Mes parents m'en parlent aussi souvent.
Tout à fait, il me semble que c'est Flora. Et donc, il m'avait mis dans une petite boîte en bois, une boîte de chaussures, l'équivalent d'une boîte de chaussures aujourd'hui, puisque j'étais vraiment rikiki. Et puis, ma maman m'avait mis dans une armoire pour me protéger, pour s'occuper des autres enfants, parce qu'on était 5. Et puis, quand elle est revenue, l'armoire était tombée. Et là, elle s'est mise à hurler. Et donc, j'ai glissé de l'armoire, en fait, et je suis parti dans le ruisseau, dans l'eau.
Comme une sorte de Moïse.
Comme une sorte de Moïse, exactement. Ma mère a hurlé, cherché partout. Et elle m'a vu à quelques mètres plus loin. J'étais parti dans la boîte en bois où je flottais. Donc, elle m'a récupéré. Et cette histoire, en fait, me dit que il faut de la persévérance, il faut se battre. C'est vrai que le médecin avait dit que je passerais pas 6 mois. Et finalement, je suis aujourd'hui un bon gros bébé. En arrivant en France, j'ai été suivi. J'ai un souvenir où j'allais à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul régulièrement. Mmh. Moi, je me souviens d'une image où le médecin dit à ma mère, je devais avoir 6 ans, parce que là, les souvenirs reviennent, dit à ma mère, « Eh bien, vous voyez, il n'a plus les genoux qui se touchent. » C'est ce que je... Il n'a plus les genoux qui se touchent. Donc ça voulait dire que j'étais un rachitique. Mm-hmm. J'avais les genoux en X. Mm-hmm. Et j'étais maigre comme un clou. Et j'ai commencé, entre 5 et 6 ans, à reprendre, à prendre un petit peu de calcium, fixer, grandir, grossir. Et puis ma mère m'a donné des vitamines tout le temps. Mm-hmm. Et j'ai dû arrêter les vitamines quand je me suis rendu compte que j'avais, à 15-16 ans, qu'est-ce que c'est quoi ça, le moment que tu me donnes le matin? On me dit, c'est bon, vas-y, prends, t'en as besoin. Et c'était des vitamines, parce que bon.
Est-ce qu'on vous avait déjà donné ce prénom, Jean-Pierre? Parce que moi, je pense que ce Moïse vous conviendrait bien. Hein.
En fait, j'ai eu un autre surnom, parce qu'en fait, mon père voulait absolument une fille. Et donc ma mère lui avait dit à l'époque, donc là c'était, on avait donc perdu une fille, elle lui a dit, écoute là je sens c'est une fille, il n'y a pas de problème, je la porte je ne sais pas comment, je me souviens, ce sera une fille. Et donc quand je suis arrivé à l'hôpital, quand je suis né, donc ils ont vu que j'étais un garçon, ils m'ont donné un surnom, et c'était Assez l'homme.
Assez. Très commun en Haïti.
C'est l'homme, voilà, c'est le surnom qu'on m'a donné, donc c'est Assez l'homme, parce que j'aurais dû être une fille, enfin, selon ma mère.
Donc c'est le dernier garçon.
Le dernier garçon. Non, le dernier garçon. Non, l'avant-dernier garçon. parce que j'ai mon petit frère qui est né après en France, et la Suresne, et ma petite sœur, la dernière, la septième, d'une famille de sept enfants.
Alors pour nos auditeurs qui ne comprennent pas la culture haïtienne, dans une famille, quand il y a trop de filles, la dernière, souvent on l'appelle à ses filles, quand c'est un garçon, c'est à ses garçons, à ses l'homme, pardon.
À l'homme, voilà.
Donc c'est suffit, j'en veux plus. Si c'est un garçon, d'accord, mais si c'est une fille, à ses filles. Bon, on continue, monsieur Jean-Pierre Roy. Le ski, vous nous avez dit, c'est l'une des activités que vous pratiquez. Mmh. Mais quand même, prendre cette initiative pour représenter Haïti dans ce championnat, il y avait quand même des risques. Est-ce que vous avez pensé que le prix que vous alliez gagner valait bien ce genre de risque que comportent ces activités?
Oui, en fait, c'est exactement le côté en fait paradoxal de la chose. C'est-à-dire que j'aime le ski parce que c'est une passion, c'est un sport. Quand on le fait et quand on aime son sport, bah, on le fait, on découvre les montagnes, les stations. Mmh. C'est super. Et puis quand on voit ces champions, bon, on les admire, mais quand on va là où ils vont, là on se dit mais c'est pas mon niveau, c'est dangereux. Et en fait, on a ce côté où on adore quelque chose et on le déteste parce qu'on a peur. Parce que vraiment, vraiment c'est dangereux. Vraiment, j'ai eu peur de tomber, c'est de la glace, c'est ce qu'on appelle injecté. Les pistes sont difficiles. Et sur certaines pistes, si vous tombez, vous glissez jusqu'en bas, quoi. Mmh. Donc régulièrement, quand ils tombent, ils se font très mal, hein, les champions. Voilà, il y a beaucoup d'accidents. Mmh. Donc je me suis dit, il faut que tu y arrives, il faut que tu t'entraînes pour juste... L'objectif, c'était de descendre les courses, de faire les courses et d'arriver en bas entier. En fait, même pas entier, debout.
Debout.
C'était important, parce que beaucoup tombent. Et donc là, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Cette passion du ski, et puis surtout, c'est Haïti. C'est Haïti qui m'a donné cette force, parce que quand je suis allé là-bas, quand j'ai vu cette pauvreté, quand j'ai vu ces gens qui se battent, moi je me suis dit, vas-y, fais quelque chose de dur, parce que c'est quelque chose, c'est pas mon niveau. À 47 ans, j'aurais eu 20 ans encore, avec plein d'entraînement, peut-être. Mais à 47 ans, c'est quelque chose de difficile, c'est une bagarre, c'est une bagarre de soi-même. Et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai vu Haïti et je me suis dit, mais vas-y, mais bats-toi, regarde, toi, tu vas descendre des pistes pour essayer de remonter ton pays, façon de parler. Et en me disant, tu vas aller au-delà de tes limites, et puis tu vas te concentrer, tu vas te préparer, mais tu vas aller au-delà de tes limites. Et tu vas le faire pour Haïti. Et pour Haïti, au départ, ça, c'était c'est ce qui a fait que j'ai pu me concentrer, me dire, va jusqu'au bout.
Et comment vous avez procédé pour les préparatifs, sachant que vous avez d'autres activités professionnelles, votre entreprise à gérer, un planning extrêmement chargé pour les entraînements, les préparatifs, comment cela s'est passé?
En fait, effectivement, ça a été très difficile, il a fallu couper. Alors vous avez trois choses, vous avez le travail, d'accord, l'entreprise qu'il faut faire tourner, la famille qu'il faut gérer, et puis le temps. Donc en fait, des négociations avec la famille, parce qu'en fait, il a fallu que j'aille me préparer, donc je parte le week-end, donc souvent les week-ends j'étais parti. L'entreprise, j'ai donné les clés à mon assistante, avec les gens, j'ai donné des directives, j'ai gardé mon téléphone portable. Et donc en Allemagne, sur les pistes d'entraînement, j'avais quelques appels importants à gérer, il a fallu faire les deux. Et puis trouver du temps pour s'entraîner, trouver du temps pour essayer de gérer toute l'activité qu'il a fallu faire autour de ce projet. C'est du jonglage avec l'entraînement, la course à pied un petit peu. Bon, là, j'ai repris, j'avais des kilos en trop, j'en ai perdu quelques-uns, j'en ai encore. Mais c'est vrai que ça a été une bagarre. Et puis les messages de soutien aussi, quand j'ai commencé, ça m'a beaucoup aidé.
Et vous n'avez pas eu de récompense spéciale, pas de médaille, rien du tout. Est-ce que vous pensez que ces efforts, ou bien ce que vous avez reçu en retour, sont à la hauteur des sacrifices consentis
pour... Oui, je pense que moi j'ai fait ça, donc j'ai fait ça vraiment pour Haïti. Il y a une chose que ça m'a apporté énormément, en fait, si je reviens à la décision... Finalement, au fond de moi-même, c'est un petit peu la vérité. Je me disais, la FIS va pas accepter Haïti parce que c'est un petit pays, puis on n'a pas les papiers qui vont bien. Il a fallu que j'aille en Haïti, négocier avec le COH qui m'a reçu, qui a été super, qui m'a fait une lettre. Donc Jean-Edouard Becker, que je remercie encore. Et en fait, quand la FIS a répondu, a dit, ok, on accepte Haïti comme membre de la Fédération internationale de ski. Là, le 6 novembre, je me suis dit, mais c'est fini, là, il va falloir y aller, c'est plus un joke, il va falloir que tu y ailles. Donc j'étais content d'un côté, et j'avais un peu peur de l'autre, quoi. J'avais, comme on dit, les boules chez nous. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il a fallu qu'on commande des habits. On a commandé, en fait, un ensemble, anorak, pantalon, et une combinaison de ski. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais obligé de faire des courses avant, où il y a des journalistes qui sont venus, et j'ai vu un article qui m'a retourné, en fait. Je crois que c'est Haïti Libre, ou je ne sais plus, un article haïtien, où il reprenait, en fait, mon histoire, et voilà, il disait, c'est bien, il y a un haïtien qui a participé au championnat du monde de ski, mais tout ça, c'était vraiment, je suis président de la fédération, c'est administratif pour moi, je vais participer au championnat du monde. Oui, j'y croyais pas, j'étais un mois avant. Et quand j'ai vu dans l'article, à un moment donné, sur la fin, avec mon surnom Rasta Piquette, vas-y Rasta Piquette, Haïti est fier de toi. Ah là, ça m'a complètement chamboulé, ça a changé. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Haïti est fier de toi? Pendant deux jours, j'ai pas dormi, parce que j'ai réfléchi à cette phrase. En fait, c'est plus moi. À un moment donné, je me suis dit, c'est plus moi, c'est Haïti derrière. Il y a Haïti derrière toi. C'est quoi Haïti? Haïti, c'est un peuple. Haïti, c'est des gens. Haïti, c'est des vies. C'est des gens. C'est des pauvres. C'est des riches. C'est tout un peuple qui va peut-être te regarder, qui va avoir des informations sur toi. C'est très important. Et alors, la chose la plus impressionnante, c'est quand j'ai reçu mon vêtement avec... J'avais demandé est-ce qu'il y a un petit drapeau haïtien. Donc il y a Fédération haïtienne de ski à gauche et le drapeau haïtien sur la droite. Et là, quand j'ai porté ça, là tout a changé. Là, je comprends aujourd'hui ce que ça peut représenter de représenter son pays. C'est quelque chose de fabuleux. C'est, vous avez des épaules qui pèsent d'un seul coup une tonne. Et puis, vous avez des pieds qui... Vous avez l'impression de marcher sur du coton. C'est vraiment ce que ça m'a fait comme impression.
Je rappelle à nos auditeurs qu'ils suivent l'émission très efficace sur la radio chrétienne Ebenezer International et que notre invité, eh bien, Monsieur Jean-Pierre Roy. Nous allons prendre une pause musicale. On reviendra
vous
juste
écoutez
après pour la
très
suite
efficace. Une deuxième pause musicale avec le guitariste haïtien Rodrigue Georges, originaire de Forjac, une petite localité appelée Atis. Salutations à tous les amis vivant dans cette région, sans oublier ceux qui sont actuellement aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique, au Canada. Amis de Pétionville, de Fermat, d'Elma, Port-au-Prince, Carrefour, Provencher. Nous aimons bien.
écoutez Très Efficace.
L'émission Très Efficace continue sur votre radio avec notre invité, M. Jean-Pierre Roy, un Haïtien vivant en France qui a présenté son pays fièrement dans le championnat du monde le tout dernier de ski alpin à Garnisch en Allemagne. Concrètement, M. Roy, comment pouvez-vous expliquer l'importance de votre démarche? Pensez-vous qu'elle peut inspirer d'autres compatriotes ou sympathisants d'Haïti à sa cause?
Oui, je pense, moi, parce que bon, le déclenchement, c'était de se dire on peut donner de l'argent, on peut faire des choses. Et là, mon objectif, c'était qu'on parle d'Haïti autrement qu'avec des mots de misère ou de pauvreté. Ou de choléra, ou de mort, ou de troubles politiques. Aujourd'hui, des gens, quand on leur parle d'Haïti, tous, ils ont entendu parler d'Haïti. Je parle des Français, vraiment, ou d'autres nationalités. Ils ont tous entendu parler d'Haïti. Et qu'est-ce qui vient à leur esprit? Ah, les pauvres. Ah, les pauvres. Ah, les pauvres. Ah, c'est une galère pour eux. On leur a donné de l'argent. On ne sait pas ce qui se passe. Et donc, je pense que là, ce que j'ai fait, c'est une initiative de donner un espoir ou une image d'Haïti à un moment donné où on ne va pas associer Haïti à des choses négatives, on va l'associer à quelque chose de positif. Alors voilà, le ski, c'était une idée, je fais du ski, bah, un Haïtien sur les skis, ça doit être rigolo, on peut rire, on peut rigoler, on peut être dubitatif, se poser des questions, mais on ne sera pas malheureux, on ne va pas pleurer, on ne va pas se dire c'est encore des problèmes. Donc, l'objectif, si on peut aujourd'hui parler d'Haïti positivement, c'est bon à prendre.
Bon, Monsieur Roy, tu m'as autorisé de te tutoyer.
Bien sûr, bien sûr.
Je pense que le courant va passer encore mieux avec le tutoiement. Souvent, quand on parle d'Haïti, moi, j'encourage pas le communautarisme. J'aime l'intégration, j'aime voir les gens s'intégrer dans le pays où ils vivent, apprendre la langue, maîtriser la langue, la culture, tout ça, sans oublier leur origine.
Bien sûr.
Mais il y a quelque chose qui m'a manqué. Quand on parle d'Haïti, il semble que les gens ne s'intéressent pas, surtout à la population haïtienne qui vit, à la diaspora haïtienne qui vit à l'étranger, ou surtout en France. Il semble qu'il y a très peu de journalistes qui s'intéressent aux cadres haïtiens. Est-ce que, à votre avis, il y a beaucoup de cadres haïtiens qui évoluent dans différentes sociétés, comme vous, par exemple?
Moi, je sais. Alors, effectivement, c'est vrai que moi, j'aurais bien voulu peut-être faire ça beaucoup plus tôt. Je pense que, on parle de la diaspora haïtienne, eh ben c'est vrai, elle existe, il existe des hauts fonctionnaires, alors ce sont des Haïtiens d'origine, peut-être certains ont pris la nationalité française aussi, parce que ils ont peut-être été obligés, plus ou moins,
administrativement.
Voilà, pour des raisons, comme j'ai été obligé pour pouvoir travailler pour une entreprise militaire, pour faire des choses comme ça. Et je sais qu'en France, il y a énormément de hauts cadres, hauts fonctionnaires avec des Haïtiens avec de grosses responsabilités. J'en ai croisé comme un responsable de service, un chef de service de chirurgie dans un grand hôpital parisien, chercheur aussi dans le monde vraiment technologique. J'ai rencontré, il y a des Haïtiens en France qui ont des postes dans les entreprises du CAC 40 qui sont très haut placés.
Est-ce que ces Haïtiens sont, comme vous, prêts à défendre leur pays, défendre les valeurs haïtiennes, parler de leur pays, mettre en évidence les richesses d'Haïti? Alors, est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu timides ou je ne sais pas, hein?
Je pense qu'au départ, on est un petit peu timide. On ne sait pas trop ce que ça peut... Alors c'est sûr que quand vous avez un chef de service, un grand service dans une entreprise du CAC 40, il va faire son travail correctement. Je pense qu'on sait qu'il est d'origine haïtienne, parce que ça, on ne le cache pas. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a... C'est vrai qu'on est timide de faire des actions, de faire des choses pour son pays, parce qu'on se dit, voilà, toi tu vis en France... tu fais des choses pour la France, tu fais des choses pour ton... Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas aujourd'hui de s'investir à 100-150% pour son entreprise et de prendre un petit peu de temps pour s'investir pour son pays. Je pense qu'il faut... Alors, ceux qui le font naturellement, ce sont les écrivains, les intellectuels, ceux qui écrivent, les journalistes, bon, parce qu'ils sont habitués à écrire, à communiquer. Mais un chef de service chez Engie ou un chef de service dans un recherche ou que ce soit, c'est vrai que c'est pas évident. Je pense que, j'espère que mon initiative va leur permettre de faire quelque chose de concret. Je pense qu'il y en a qui ont envie de le faire, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui sont peut-être timides en se disant « bon, est-ce que je peux me montrer ?» Eh ben, en fait, moi, je peux leur donner juste le message suivant, c'est qu'aujourd'hui, ben, je n'avais pas d'ennemis, parce que j'ai beaucoup d'amis, je veux dire par là que voilà, j'ai pas fait de choses dans la vie qui font que ce soit professionnel. Et ben j'ai encore plus d'amis maintenant. Et je crois que les gens, les Français, et ben ils ont vu ça positivement, ce que j'ai fait. Ils ont dit c'est super ce qu'il fait parce qu'en fait il utilise quelque chose qu'il aime, le ski. Et on reconnaît parce que moi tout ce que j'ai pu donner. En fait, ce que je dis aussi, c'est tout ce que j'ai pu donner à Haïti, c'est grâce à ce que m'a donné la France. Donc, l'intégration en France complète. C'est ce que m'a donné la France, ma famille, la construction, ma maison, toutes les notions, les études. C'est la France qui me l'a donné. Et donc, grâce à ça, je peux donner à Haïti. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut transmettre comme message. Je pense que si on dit ce que j'ai reçu de la France... grâce à ce que j'ai pu construire, je peux en donner un petit peu pour Haïti, c'est super.
Il semble qu'il y a peut-être une crainte d'être considéré comme un fanatique, un nationaliste, voilà. Donc je ne vais pas dire que je suis haïtien pour que les gens ne pensent pas, etc., etc. Pensez-vous que cette crainte est fondée, dire qu'on est haïtien dans un milieu très, très professionnel, de haut niveau, est-ce que c'est péjoratif à votre avis?
Non, franchement, je ne le pense pas. Et je le pensais peut-être beaucoup plus jeune. Quoique j'ai toujours été haïtien, en étant haïtien avec mon passeport, les gens l'ont vu. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est plus... Aujourd'hui, Haïti a une image. La France connaît quand même. Il y a une communauté haïtienne en France. Les gens écoutent de la musique haïtienne. Je pense qu'en France, on n'a pas de honte, on n'a pas de problème à être haïtien. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un pays qui a déjà fait parler de lui, par sa pauvreté, par ce qu'il a subi. Être haïtien, ça ne choque pas les gens. Par contre, ce que je voudrais, moi, c'est qu'on agisse pour Haïti, qu'on fasse des choses, pas qu'on le revendique, mais qu'on essaie de faire partager la culture. Il me semble savoir qu'à un moment donné, la dictée de Pivot, la dictée où tout le monde fait des fautes, et ben il me semble qu'il y a une année, il faudra que je fasse des recherches, je me rappelle que le premier francophone était un haïtien.
Le premier francophone est un haïtien. Oui. Alors, étant donné que vous êtes assis dans un fauteuil très confortable, j'ai pas besoin de vous demander d'attacher vos ceintures. Vous avez quitté Haïti très jeune, à l'âge de 2 ans. Est-ce qu'on parle créole là bien?
Il y a un petit problème pour parler créole, mais je ne comprends pas créole.
Bon, déjà, ça dit, là, c'est gros causé. Il y a un haïtien qui pas même qu'a dit première phrase dans ça dit. Il y a un haïtien qui a écouté nous, qui aux États-Unis, en France, en Guadeloupe, Martinique, en République Dominicaine, tout ça. Est-ce que vous avez dit un petit parole créole dans la langue maman noire pour vous en mis
à eux? Ah, ça me pour me dire, là, c'est tout le monde, c'est quelque chose t'es lu dans le journal là, c'est Kimbered Pamoli.
Kimbered Pamoli. Alors nous même Bolakay Pano nous dit Kimbered Palagé. Pamoli c'est antillais. Tenez ferme, ne relâche pas. Palagé.
Palagé.
Alors monsieur tes amis antillais, y'a pas fait jalousie. Non. Moi même pas les vrais créoles haïtiens.
Kimbered Palagé.
Kimbered Palagé. Alors Pamoli c'est pour amis antillais. Mais si on adresse aux amis haïtiens, c'est pour dire mon cher Kimbered Palagé.
Palagé.
Ok. Eh ben merci bien pour cette parenthèse que je ferme rapidement pour ne pas trop vous traumatiser.
Non.
Bon, voilà. Et on avance avec notre programme qui va terminer d'ici quelques instants. Vous avez sans doute un message à adresser aux jeunes qui vous écoutent actuellement, puisque beaucoup d'entre eux vont vous prendre comme un modèle, comme un exemple à suivre. Quel est donc ce message, Monsieur Roy?
Ouais, c'est un message simple, donc il faut avoir confiance en soi, et puis il faut savoir donner et ne pas attendre en retour. Donner pour donner, c'est quelque chose qui est important, je crois que les Haïtiens savent ça. pour tous les Haïtiens, toute la communauté haïtienne, je peux vous dire que on est digne. Vous êtes un pays digne. J'ai vu les plus pauvres du monde. Eh ben, c'est les gens les plus dignes que j'ai vus. Donc il y a une dignité dans nos yeux, dans nos actions. Je peux vous dire à tous que quoi qu'il arrive, on s'en relèvera tout le temps. Même une bombe atomique ne suffira pas. Et d'ailleurs, une bombe atomique, ça suffira pas pour détruire Haïti. Parce que ce qu'on a déjà reçu, c'est bien pire que ça.
Et comptez-vous continuer sur cette même lancée avec d'autres projets de plus grande envergure à court ou à long terme pour venir en aide au peuple haïtien?
Oui, alors moi j'espère. On a beaucoup parlé d'Haïti et les gens ont fait des dons, ont continué. Moi je voudrais continuer dans la Fédération haïtienne de ski. Et je fais un appel à tous les skieurs qui ont toujours le passeport haïtien, ben, de m'envoyer un mail sur haiti.atmontillet.fr. C'est important parce que j'ai besoin de la relève. Moi, je vous ai donné l'idée à tous que Haïti aujourd'hui est membre de la Fédération internationale de ski. Donc, je voudrais monter une équipe pour les prochains championnats du monde et pour les Jeux olympiques. Et là, j'y serai avec le drapeau haïtien. Et là, on verra Haïti au monde entier, associé avec les Américains, les Français, les Canadiens, les Suisses, les Espagnols, les Italiens. Voilà, c'est ça le monde. Je voudrais qu'Haïti soit à ce même niveau.
Et vos démarches ont une couleur très humanitaire. Vous n'allez sans doute pas me contredire. Comptez-vous lancer un jour votre propre ONG ou association caritative?
Alors, je me suis posé la question et en fait, je me suis plutôt rapproché d'associations caritatives ONG. Il y en a deux avec lesquelles je travaille parce que je me suis vraiment renseigné sur ce que c'était que l'humanitaire. Et donc c'est le Secours Populaire aujourd'hui qui a des actions pour Haïti. Donc si vous voulez donner, vous pouvez donner au Secours Populaire, mais vous précisez Haïti. Mm-hmm. Voilà. Et là, effectivement, il y a un projet de construction d'école à Rivière-Froide, à Jacmel. Mm-hmm. C'est vraiment concret. Et une autre ONG qui s'appelle Alima, qui elle est ce sont des anciens de grosses sociétés humanitaires qui ont monté ça. Et en fait justement, ils récupèrent des fonds et ils vont localement, ils sont en Haïti actuellement, pour s'occuper du choléra et de la chirurgie réparatrice. Oh. Donc, j'ai vu que ces projets, ce sont des projets locaux, c'est un travail de fourmi. Mm-hmm. D'accord. Le gouvernement doit gérer les gros fonds, la reconstruction d'Haïti. Mais on peut aujourd'hui travailler sur des petits projets, des projets locaux, concrets. À Lima, ils viennent avec une équipe de médecins bénévoles qui changent, qui tournent des chirurgiens. Mm-hmm. Ils vont avec, par exemple, l'hôpital de la communauté haïtienne à Port-au-Prince, concrètement, et ils proposent leurs services. Là, pour le choléra et la chirurgie.
Étant donné que vous venez de Pétionville et moi je viens dans les hauteurs encore plus roses et Forjac, Kingscope, tout ça, souvent j'entends parler de Gonaïves, de Petit Gouave, Grand Gouave, Jacmel, mais il semble que les gens ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe dans les hauteurs de Port-au-Prince, de Pétionville. Alors il serait bien aussi d'inviter ces gens, ces investisseurs, d'aller voir ce qui se passe à Forjac, à Calbas, à Fermat, à Duvier par exemple, à Greffrin, Bellevue, la montagne, passer par Pétionville, Thomassin, la Boule, et puis aller voir encore, là, en contemplant la beauté du paysage, ils se rendront compte aussi des grands besoins de ces localités.
Oui, malheureusement, c'est un problème, c'est un problème mondial, c'est-à-dire que vous avez la capitale, les pauvres gens fuient parce qu'ils n'ont pas de quoi manger et vivre, donc ils viennent à la capitale pour essayer de gagner un peu de sous pour vivre. Mais c'est vrai qu'en dehors, il y a des vrais besoins.
Il y a de vrais besoins.
C'est pour ça que quand je parle de Jacmel, aux Rivières Froides, cet endroit-là, c'est vraiment Sud ou Petit Goave, Grand Goave. Il y a des choses à faire, c'est vrai.
Beaucoup de choses.
Et je pense que, effectivement, on va donner. C'est vrai que si on aide la population pour Port-au-Prince, on en a besoin, certes. Parce que, moi, je pense aujourd'hui. Pour reconstruire le pays, pour reconstruire Haïti, il faut passer par l'éducation.
L'éducation.
Ça, ce serait... Quand je suis allé là-bas, j'avais envie de tout donner à tout le monde. Et quand on réfléchit avec le recul que j'ai, les études que j'ai faites, le rapprochement, je me dis l'éducation. Si vous apprenez à lire et à écrire, un jeune, si vous lui apprenez un tout petit peu à penser, pouvait sauver des centaines de milliers de personnes. Pourquoi ? Parce qu'ils vont comprendre que cette eau-là n'est pas bonne, savent lire, qu'il ne faut pas boire là, qu'il faut se protéger, il faut se protéger des maladies, il faut faire ci, il faut faire ça. Et je pense qu'on arrivera à en sauver beaucoup plus que de donner quelque chose comme ça ponctuel. Donc c'est vrai, l'éducation c'est très important. D'ailleurs, on voit bien dans les pays, quand ça ne va pas, c'est les étudiants qui se soulèvent et le pays se soulève.
Oui, certainement. Alors, quels sont les projets qui vous tiennent le plus à cœur dans les jours ou les années à venir? Et puis, deuxième volet de cette question, comptez-vous investir dans la jeune génération en lui proposant, par exemple, des cours, des stages ou même des accompagnements pour lui faire découvrir ses talents cachés?
Tout à fait. Alors, bon, c'est vrai que moi je connais, il y a beaucoup de choses et je vais peut-être m'orienter par le sport, bon, le ski, puisque je connais le ski, mais le sport en général. Je pense que je vais donc continuer la fédération. J'ai mon association L'Or Blanc pour Haïti qui m'a permis de monter la fédération haïtienne de ski et de continuer à essayer de proposer une image positive via le sport pour les Haïtiens. Donc les aider, c'est-à-dire recevoir des Haïtiens, les emmener à aller voir peut-être des compétitions de ski ou des compétitions de peu importe dans les autres, dans certains sports. Donc continuer mon association pour pouvoir aider cette image d'Haïti. Parce que c'est un espoir. Je pense que c'est un espoir et c'est une image. Il faut que les gens, avant d'agir, il faut croire en quelque chose. C'est ce que je pense. Sinon, vous n'agissez pas. Donc, si vous croyez qu'on peut faire quelque chose dans le sport, quel qu'il soit, eh ben, à ce moment-là, moi, je vais essayer de donner cette croyance en disant aux jeunes, les aider, les accompagner, donc recevoir des Haïtiens, les héberger, faire des choses comme ça.
Monsieur Jean-Pierre Roy, notre invité, l'avant-dernière question. Qu'attendez-vous de nos auditeurs après la diffusion de ce programme?
En fait, qu'ils découvrent qu'on peut faire des choses qu'il faut, en s'intégrant. Là, j'ai représenté Haïti au championnat du monde. Je lance un message comme quoi on peut donner pour donner. J'ai donné pour Haïti. Ce que je souhaiterais, c'est que tous les Haïtiens, et particulièrement le prochain gouvernement, fassent la même chose, juste dans l'image de dire je vais gouverner pour Haïti, pas pour ses poches, quoi. Voilà. Parce que je pense qu'on a eu beaucoup de problèmes à cause de ça, et beaucoup de pays, c'est ça le problème. Donner pour Haïti. Il faut y croire, on est un pays digne, il faut se battre, continuer. S'il y a des gens qui veulent faire des associations, qui veulent faire des initiatives, il y a beaucoup d'initiatives pour Haïti, qu'elles continuent, il faut continuer à donner. On a besoin, il faut que tous les gens continuent à aider Haïti à donner, parce que c'est un pays très très pauvre.
Avant le mot de la fin, pourquoi avez-vous choisi le surnom Rasta Piquet?
Eh bien, Rasta Piquet, parce qu'en fait, Rasta pour le côté cool, et Piquet parce qu'en fait, j'étais dans les piquets. Donc dans les piquets de slalom. Donc piquet, c'est un nom un peu cool dans les piquets. Donc c'est le Rasta Piquet.
Et pour conclure, Monsieur Jean-Pierre Roy, quel est votre tout dernier mot?
Mon dernier mot, c'est que je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait, parce que je remercie toute la communauté haïtienne, parce que j'ai reçu énormément de messages de soutien. Au début, j'ai cru que j'allais être ridicule, et en fait, non. Le monde entier a pu voir par les que ce que j'ai fait, c'était quelque chose de positif. Donc, il faut continuer à donner cette image positive, l'Haïti. Donc, les grands, les chercheurs, tous les intellectuels qui sont là en France, au Canada, dans le monde entier, faites le savoir et faites une petite action pour Haïti. Vous allez voir, on sera étonné du nombre d'intellectuels qu'il y a dans les grands postes aujourd'hui. Dans le monde entier.
Monsieur Jean-Pierre Roy, la Radio Chrétienne Ebenezer Internationale vous remercie et vous souhaite une bonne continuation dans vos initiatives. Et nous avons l'espoir qu'un autre jour, nous vous retrouverons pour peut-être une autre émission pour motiver encore plus nos compatriotes et les sensibiliser sur les besoins de notre pays.
Tout à fait. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous.
Le plaisir est partagé. Au revoir, Monsieur Roy.
Vous écoutez Très Efficace.
On embrasse tous.
La dernière pause musicale avec l'artiste québécoise Andréane Lafleur, que nous avons reçue récemment à l'émission Mykonak.
Quand ton cœur t'entraîne à poursuivre un but, à dévoiler les dons que tu as reçus, t'en es ton rêve. Offre-lui des ailes pour qu'il perce le ciel.
Et le cran de voler contre le vent, l'audace de voguer à contre-courant. Chasse l'ombre de la crainte, revers au chagrin, marche droit dans le chemin.
Tout est possible, tout est possible. Celui qui croit à la hausse des exploits. Tout est possible, tout est possible. Franchis les barrières. Sur terre est plus précieux que l'or. Un jour s'éveille, puis il s'évapore. Ouvre tes bras à la vie, Dieu te destine à un bel avenir. Tout est possible, tout est possible. Celui qui croit.
Efficace.
Every day, anywhere, anytime. The Digital Gospel Channel. Ebenezer International, your station.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs et auditrices, nous arrivons à la fin de ce nouveau numéro de Très Efficace, un programme qui était consacré aujourd'hui au professionnel haïtien Jean-Pierre Roy. Je vous rappelle qu'il a représenté Haïti fièrement au championnat du monde de ski alpin à Garnisch en Allemagne. Un geste qui a encouragé beaucoup d'Haïtiens et qui a ravivé la flamme de leur désir pour soutenir leur terre natale, la belle Haïti. Avant de partir, j'aimerais remercier sincèrement M. Jean-Pierre Roy qui nous a consacré ce temps précieux pour la réalisation de cette interview. J'ai l'assurance qu'une prochaine fois, il nous parlera de ses expériences musicales, puisqu'il est aussi un bon musicien, violoncelliste et bassiste. Je remercie également tous les artistes qui ont apporté leur fraternelle contribution à ce programme. Commençons par le guitariste haïtien Rodrigue Georges, à qui nous devons notre générique ainsi que le titre Someday, l'artiste Bito Vaoba, Bello, qui sont également des artistes d'origine haïtienne. Sans oublier l'artiste québécoise Andréane Lafleur, que nous avons reçue avec beaucoup de plaisir dans une édition spéciale de Mykonak, un programme conçu pour vous aider à mieux connaître les artistes chrétiens. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étaient branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Très Efficace. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami Franck Doristil qui vous dit une fois de plus, merci et au revoir. Vous venez d'écouter Très Efficace sur la radio chrétienne Ebenezer International, The Digital Gospel Journal, your station.
Quand ton cœur t'entraîne à poursuivre un but, à dévoiler les dons que tu as reçus, donne vie à ton rêve, offre-lui des ailes pour qu'il perce le ciel.
Et le cran de voler contre le vent, l'audace de voguer à contre-courant, chasse l'ombre de la crainte. Chagrin, marche-toi dans le chemin. Tout est possible, tout est possible. Celui qui croit, alors pose des exploits.
Sur terre est plus précieux que l'or. Un jour s'éveille, puis il s'évapore. Ouvre tes bras à la vie, et Dieu te destine à un bel avenir. Tout est possible, tout est possible. Celui qui croit.
Devant les libérer et les laisser briller, qu'ils éclairent.
RTS International.
Tout est possible. Tout est possible. Celui qui croit.
Tout est possible.